Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Notre fascination, en tout cas la mienne, pour les États-Unis ne cesse de m'interroger. Alors certes, c'est sans doute un effet collatéral de la centralisation du monde autour d'une poignée de grandes puissances qui comptent, qui nous donne la sensation que finalement, ce qui se trame à Washington pourrait avoir un impact sur nos vies malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent. C'est ainsi qu'il y a plus d'un an et demi des présidentielles américaines, on en est déjà à rouvrir le grand bal des candidats potentiels à la Maison-Blanche et à suivre l'entrée en course des uns et des autres face à Trump. Enfin surtout d'un en particulier. Bernie Sanders, candidat malheureux à la primaire démocrate de 2016, devenu au passage la rockstar des progressistes, le champion de la gauche mondiale et un espoir de renouveau révolté malgré ses 77 ans bien tassés. Comme il semble fasciner un peu tout le monde, ses alliés comme ses ennemis, on a eu envie de se poser notre question rituelle. Qui êtes-vous, monsieur Sanders ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer, il nous fallait remonter un peu le fil de sa carrière et de son entrée dans le jeu politique national américain. Pour ce faire, je suis allé à la rencontre d'un expert de la question, Lorik Enton. Il est maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin. On s'est rejoint dans un café de la banlieue parisienne et j'ai commencé par lui demander à quel moment Bernie Sanders est devenu un incontournable de la politique de son pays.
En réalité, Bernie Sanders, il apparaît sur la scène au printemps 2015 et quand il déclare sa candidature, c'est un sénateur dont beaucoup de gens découvrent l'existence même aux États-Unis et c'est pas du tout quelqu'un qui a une stature nationale. Il l'acquiert progressivement, surtout par le fait qu'il reste en course alors qu'au départ, on pense que c'est comme toutes ces candidatures à la primaire démocrate, c'est quelqu'un qui va faire une candidature de témoignage. Il est bien sympathique, il est bien aimable, mais finalement, bon, il va rester quelques semaines et il va disparaître comme tous les autres. Et le fait qu'il s'accroche et qu'il ait un écho particulièrement retentissant chez les jeunes, ça c'est le grand paradoxe, et c'est notamment sa grande force, c'est là qu'il acquiert cette stature qu'il n'avait pas malgré son âge, malgré sa grande expérience. Donc c'est ça qui est assez surprenant finalement, c'est que ça se fait vraiment petit à petit et un peu à l'usure.
D'où il vient Sanders en 2015, à cette époque-là ? C'est quoi son parcours, si on doit le résumer un petit peu ?
Alors, c'est quelqu'un qui a un long parcours, qui a un parcours de militant pour les droits civiques. On sait que dans les années 60, Hillary Clinton militait pour Barry Goldwater, qui était un peu le Trump des années 60, alors que lui, il se faisait arrêter parce qu'il manifestait pour les droits civiques. Donc, c'est vraiment deux parcours très différents. Il a quelques années plus qu'Hillary Clinton, mais à l'époque, ça fait vraiment une différence. Et c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la politique locale. Du Vermont, alors le Vermont, c'est très, très blanc, c'est 95% de blanc. C'est très démocrate, c'est très progressiste. Et donc, c'est quelqu'un qui ne se frotte pas forcément à une politique très partisane, très, très conflictuelle. C'est quelqu'un qui a une place qui est assez particulière, en fait, hein, parce que le Vermont, c'est vraiment une sorte d'îlot bleu. C'est quelqu'un qui émerge dans la politique municipale, locale, à Burlington, qui est un maire, qui devient le représentant de l'État, le seul représentant de l'État, qui devient finalement le sénateur en 2006, donc finalement assez tard. Et c'est seulement au bout de 10 ans qu'il se présente à la présidentielle, alors qu'il n'a pas véritablement une stature nationale comme un certain nombre de sénateurs qui sont très en vue parce qu'ils ont justement des ambitions. On dirait qu'il n'a pas d'ambition, lui.
Comment on explique le fait qu'il se maintienne justement, que sa candidature, comme pour reprendre l'expression que vous employiez tout à l'heure, ne tourne pas à la candidature de témoignage, qu'il n'y ait pas juste un petit tour de piste pour faire entendre ses idées et puis qu'après il disparaît. Comment ça se fait qu'il se maintienne dans cette course justement? C'est lié à cette absence d'ambition qu'on évoquait?
Ça joue, c'est-à-dire que ça joue en partie par ses qualités et son profil, mais ça joue également par la personne qu'il a en face. Il aurait eu Obama en face, ça aurait peut-être été différent. Il aurait eu quelqu'un comme Sherrod Brown de l'Ohio, ça aurait été différent. Mais lui, il fait vraiment outsider. C'est ça qui marche bien de son côté, et c'est ça qui marche bien la même année chez Trump. Et chez d'autres, hein, Ben Carson, par exemple, ou Carly Fiorina ont bien fonctionné à un moment parce qu'ils étaient en dehors du sérail et en dehors de Washington. Le fait que Hillary Clinton incarne Washington à un point presque caricatural fait que, quel que soit son adversaire, il avait une chance s'il incarnait l'extérieur. Et comme Sanders respire l'extérieur par tous les aspects de sa personnalité, de sa politique, il avait de toute façon un profil qui était parfait de ce point de vue-là. Ses positionnements, son style de campagne, son charisme et sa capacité à enthousiasmer les jeunes ont joué énormément, alors que Clinton, c'était la candidature trop évidente et trop establishment, en fait. Et lui, c'est le contraire de ça.
Où est-ce qu'on le situe pour résumer les choses, où est-ce qu'on le situe politiquement, Sanders? Si on regarde l'échiquier politique américain, ne serait-ce que vis-à-vis des démocrates, où est-ce qu'on le trouve, lui, sur la carte?
Alors, à l'origine, il est à la gauche du parti démocrate. Il est considéré comme un... Enfin, il est inscrit comme indépendant, il vote avec les démocrates.
Et donc, ça, on peut peut-être préciser qu'est-ce que ça implique comme petite spécificité, le fait qu'il ne vote uniquement avec les démocrates.
C'est un verbe qu'on appelle caucus, c'est-à-dire au Sénat, ils votent avec le groupe démocrate, mais c'est un petit peu comme en France, des gens qui sont non inscrits, mais qui vont voter avec la majorité ou qui vont voter avec l'opposition. Et donc, en fait, en termes d'être membre d'un parti, lui n'en fait pas partie, et il n'a pas sa carte. Et justement, ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'il est considéré comme une espèce de coucou, c'est-à-dire qu'il fait son nid dans le nid des autres. Et de ce point de vue-là, ça énerve les démocrates du parti parce qu'ils ont l'impression de se faire voler leur élection par un type qui en gros habite à côté mais vient cracher chez eux, quoi. Et pour eux, c'est quelque chose qui est assez insupportable parce que sa popularité, à la limite, ce serait quelqu'un qui serait pas très populaire, ça poserait pas vraiment un problème, mais comme là il a de bonnes chances il fait la course en tête, hein, donc il a de bonnes chances de leur piquer la nomination. Donc forcément, ça les énerve. Mais en termes de positionnement, on a tendance à imaginer qu'un indépendant est entre les démocrates et les républicains, et c'est pas vrai. Lui, il est plus à gauche que le Parti démocrate, et il a attiré le Parti démocrate vers la gauche. Et un certain nombre des gens qui sont candidats cette année se réclament de Sanders. Alexandria Ocasio-Cortez, elle n'est pas candidate, mais elle a fait campagne pour Sanders en 2016, et c'est là-dessus qu'elle a construit sa vocation politique, d'une certaine manière. Donc ça, il a enthousiasmé un certain nombre de gens qui se réclament de lui, et il a tiré le Parti démocrate vers sa gauche. Ce qui peut être une bonne chose, mais qui peut être aussi une forme de suicide politique, puisqu'on gagne au centre. Et c'est le problème de la primaire, c'est qu'on gagne la primaire dans son camp, et généralement à l'extrême de son camp, et en même temps, on gagne l'élection au centre. Et donc, en trahissant une partie de son camp. Donc ça va être vraiment le grand écart à réaliser pour les démocrates, et ça peut être extrêmement dommageable.
En termes d'idées, concrètement, qu'est-ce qui détermine ce positionnement à la gauche du Parti démocrate? Sur quel point politique il est, on va dire, plus à gauche que ne l'est le parti traditionnellement?
Alors il y en a un certain nombre qui sont devenus iconiques, le salaire minimum à 15 dollars, mais c'est des choses qu'on voit par exemple au niveau local, au niveau de certains États ou au niveau de certaines municipalités. On a un certain nombre d'idées comme ça qui sont mises en place à un niveau local, mais lui c'est quelque chose qu'il défend et qui visiblement a fait tache d'huile. L'enseignement supérieur gratuit pour tout le monde, donc y compris pour les riches. Augmenter les impôts pour les riches, ça c'est quelque chose qui est généralement assez largement partagé par les démocrates, mais lui, on a fait vraiment un de ses chevaux de bataille, et le fait d'ouvrir le Medicare, donc en gros la sécurité sociale, pour tout le monde, c'est-à-dire pas seulement pour ceux qui peuvent se le permettre, mais que ce soit considéré comme un droit universel et pas comme une sorte de privilège. Et ça, c'est notamment sa grande idée qui a fait tache d'huile et dont la plupart des candidats récents se réclament. L'idée de Medicare for All, c'est quelque chose sur lequel il n'est plus en situation de monopole. Et c'est aussi le problème, c'est que le fait qu'il ait fait des petits, d'une certaine manière, fait que son positionnement à gauche, qui était assez original en 2015-2016, elle n'est plus du tout. Ça devient pratiquement le mainstream. Et les rebelles du Parti démocrate maintenant, ça va être ceux qui ont un positionnement plus centriste. Parce que eux vont avoir un positionnement qui va être moins sexy au niveau de la base, mais qui va peut-être être beaucoup plus rassembleur au niveau du centre et donc de l'élection. Et donc, l'élection primaire va être peut-être un gros piège pour les démocrates, et il va falloir qu'ils fassent attention à pas trop dériver vers la gauche. Sinon, ils risquent de perdre, par exemple, toutes les voix des Blancs du Midwest qui ont voté Obama en 2008, pas forcément en 2012, et qui ont voté Trump en 2016.
Est-ce qu'il est socialiste, Bernie Sanders? On a pu lire ça parfois dans la presse ou dans les propos de certains de ses adversaires politiques, plutôt parce qu'on sait que le socialisme, c'est plutôt un gros mot aux États-Unis. Est-ce qu'on peut le considérer comme appartenant à la tradition socialiste, donc plutôt une tradition européenne pour le coup?
Alors, il y a plusieurs réponses à fournir. Déjà, dans le contexte français, on aurait du mal parfois au sein du PS français. Certains considèrent que Valls, c'est pas un vrai socialiste, alors que, etc. Donc, il y a déjà des querelles fratricides au sein d'un parti explicitement socialiste. Dans un endroit où il n'y a pas de parti socialiste, c'est beaucoup plus compliqué. Lui se réclame d'une forme de socialisme, et en fait, il y a deux acceptions aux États-Unis. Il y en a une qui est plutôt contrôle de l'économie par l'État, et l'autre qui est plutôt redistribution, donc plutôt social-démocrate. De la même manière que Manuel Valls parlait de deux partis socialistes qui étaient irréconciliables. On a également deux types de grandes branches de socialisme. L'une qui fait peur parce que ça rappelle les fantômes de la guerre froide. Et c'est là-dessus que Trump, par exemple, joue quand il dit que Sanders veut transformer les États-Unis en nouveau Venezuela. Donc là, tout de suite, ça ramène des images de guerre froide. Et c'est vraiment l'intention. Mais l'idée, c'est plutôt de quelque chose qui se réclamerait plutôt de la tradition rooseveltienne, donc d'aider les plus démunis à travers une forme de redistribution, mais également par exemple des programmes d'intervention étatique comme sur le modèle du New Deal par exemple.
Et du côté de Washington, comment est-il perçu ce bon vieux Bernie? Comment prépare-t-il son assaut sur le Parti démocrate? Pour en savoir plus, j'ai passé un petit coup de fil là-bas à ma consoeur Elodie Cusin, journaliste à l'AFP. Elle suit les affaires du Congrès américain. Je lui ai demandé comment Sanders s'était perçu au sein du Parlement américain.
Depuis la primaire démocrate de 2016, il a une place assez importante. Il est devenu très connu dans le paysage politique américain. Donc les journalistes le suivent de près, mais en même temps, il y a un peu cette image d'outsider. C'est un sénateur indépendant, ils sont deux au Sénat, et donc lui, il travaille avec les démocrates, avec les sénateurs démocrates, il siège même dans les déjeuners des dirigeants démocrates hebdomadaires, il est là, il a été invité après 2016, mais il a ce côté indépendant toujours. Il est assez charismatique, tout en étant peu charismatique sur le papier finalement, mais il a cette force de conviction. Quand il présente des mesures qui lui tiennent vraiment à cœur, il est présent, il fait des points presse, il parle dans l'hémicycle avec beaucoup de ferveur. Par contre, comparé à d'autres sénateurs qui sont prêts à parler tout le temps, à s'entretenir avec les journalistes qui sont dans les couloirs du Sénat, qui sont là tous les jours pour avoir un peu les coulisses de ce qu'ils pensent, etc. Là, au contraire, lui, il est allergique à ça. Il passe quand on est dans les couloirs, il passe devant, parfois même en courant, ou toujours le téléphone vissé à l'oreille, même si on peut s'imaginer qu'il y a personne en face. Il tient vraiment à son indépendance, il ne rentre pas vraiment dans le jeu médiatique quotidien au Congrès.
Vous parliez des dossiers sur lesquels il peut être très, on va dire, convaincant, ou en tout cas très convaincu. Sur quel genre de dossier, justement, il est très, on va dire, impliqué ? Dans quel genre de dossier il est très impliqué ?
Alors, on l'a beaucoup connu, et surtout après la primaire de 2016 contre Hillary Clinton, sur sa proposition d'un système universel de santé. Ça, c'est quelque chose qui lui tient très à cœur, qui peut paraître évident en France, mais qui ici paraissait encore presque révolutionnaire il y a 4 ans. Et donc là, il a réintroduit un projet de loi récemment, en ce sens qu'on souscrit plusieurs autres candidats à la présidentielle, candidat démocrate à la présidentielle pour 2020. Donc ce sujet, la santé, c'est quelque chose... il est pour une réforme rapide, un changement vers un système de santé universelle aux États-Unis, pardon. Ce sont des assurances privées qui prennent en charge la plupart du temps. L'assurance coûte très cher. Des millions de personnes ne sont pas assurées, c'est-à-dire que concrètement, on tombe malade et on ne peut pas être soigné. Il faut imaginer les coûts d'un traitement, par exemple pour un cancer, etc. Sans assurance, c'est intenable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Augmenter le salaire minimum pour passer à $15 par heure. Ça, c'est aussi une des mesures qu'il défend. Et aussi en politique extérieure, là dernièrement, en fait, la chose la plus récente sur laquelle on l'a vu vraiment passionné, c'était une résolution qu'il avait introduite avec un sénateur républicain, alors très à l'opposé sur l'échiquier politique, mais contre la participation des États-Unis dans la guerre au Yémen, à travers leur assistance à l'Arabie Saoudite. Des républicains, des démocrates et lui, indépendant, s'étaient unis sur cette résolution pour des questions différentes. Les républicains, c'était surtout parce qu'ils estiment que le président doit respecter le pouvoir du Congrès, qui normalement doit avoir son mot à dire quand les États-Unis entrent dans un conflit. Bernie Sanders lui a eu vraiment des mots très durs en appelant à retirer les forces armées américaines de ce conflit immédiatement, en disant nous ne nous laisserons plus dicter notre engagement militaire par un régime despote et assassin en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est aussi un sujet qui l'anime vraiment, et ça, c'est ce qu'on avait vu en décembre. Ça avait été des moments forts au Sénat.
Pourquoi est-ce qu'il fascine autant Bernie Sanders ? Est-ce que aux États-Unis, on commence à comprendre un peu les raisons, des mécanismes de la fascination qu'il peut exercer à la fois dans le pays et puis à l'extérieur aussi, parce qu'on parle beaucoup de lui à l'étranger.
C'est vrai que sur ce deuxième point, déjà, ça a été assez frappant en tant que journaliste ici. Donc, je couvre la politique, et on voyait avec mes collègues ici dans les tweets sur Bernie Sanders, etc., ont été beaucoup plus repris à l'étranger que les autres candidats, etc. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a cette notoriété à l'étranger. À l'étranger, j'imagine que c'est le côté où on ne l'attendait pas, cet outsider en 2016 qui tout d'un coup a tenu la dragée haute à Hillary Clinton jusqu'en juin 2016 pour la nomination. Cet homme, c'est quand même sur le papier, à l'ère de la communication extrême parfois en politique aux États-Unis où tout est bien rodé, etc. Il est souvent échevelé. Rouge quand il parle passionnément de ces sujets, etc. Il a ses costumes comme ça. Voilà, c'est pas l'image, c'est pas le gouverneur de la Californie Gavin Newsom qui est pour le coup présente une image très cadrée de politique, etc. Et je pense, en tout cas en 2016, il a réveillé ça. Ce qui a pu aussi se retrouver chez Donald Trump, au risque de choquer, c'est que les électeurs ici ont soif d'authenticité. Et voilà, même s'il n'avait pas un charisme évident, Bernie Sanders, lui, c'est... Donc l'authenticité pour Donald Trump, c'est autre chose. Mais pour Bernie Sanders, en tout cas, c'est vraiment son combat de 30-40 ans. Il défend ses idées depuis des décennies. Il est authentique. Et quand il le défend, on le voit jamais aussi à l'aise. En tout cas, il décroche quelques sourires, lui, qui est plutôt irascible. C'est quand il est devant ses supporters, quand il martèle ses idées, quand tout d'un coup, on a vu des jeunes venir voir ce tuagénaire parler d'idées qui paraissaient révolutionnaires aux États-Unis. Je pense qu'il y a ce côté authentique, sincère, Les gens ont soif de ça, les électeurs ont soif de ça, et cet enthousiasme n'est pas fin, en tout cas de son côté, il croit vraiment en ses idées et ça se ressent.
Qui sont ses soutiens? Est-ce qu'on sait qui le soutient? Je pense notamment à ses soutiens financiers, parce que on sait que pour faire campagne aux États-Unis, ça coûte très cher. Il y a besoin d'apports comme ça, de soutien financier. Il y a souvent du coup des personnes derrière qui aident à monter ces campagnes. Qui soutient Bernie Sanders? Est-ce qu'on sait un peu sur quelle base il s'appuie, lui?
Alors lui, il avait refusé en 2016 de prendre les financements de grandes entreprises qui passent par des groupes comme ça un peu... pas anonyme, mais assez nébuleux. Donc lui, il avait compté sur une grande base de petits donateurs, et c'est en train de se vérifier à nouveau. Il semble qu'il compte beaucoup là-dessus, et notamment, en fait, il a gardé cette base de données depuis 2016. Et donc, dès le premier jour de son annonce, donc les 24 heures après l'annonce de sa candidature en début de semaine, il avait apparemment levé, selon les médias américains, enfin selon lui d'ailleurs, 6 millions de dollars en 24 heures. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'était une moyenne de 27, si je me trompe pas, de 27 dollars par donateur. Donc, on voit bien que ce sont des petits donateurs. Il parie sur cette force de frappe de multiplier... les donations d'individus ou de petits groupes, mais qui croient vraiment en lui et qui sont donc prêts à donner de nouveau cette fois. Je l'ai vu autour de moi, les gens qui étaient là ou qui avaient peut-être éventuellement, donc pas des journalistes qui n'ont normalement pas le droit, mais qui avaient donné peut-être quelques dollars pour acheter une tasse en 2016, ont reçu immédiatement, presque le lendemain, des textos leur demandant sur ce ton détendu de la campagne de Bernie, salut, on est de retour, n'oubliez pas de donner. Donc ils ont apparemment quand même une base de données assez efficace. Je crois que le New York Times parlait de déjà 2 millions de donateurs recensés. Donc il va surtout compter là-dessus. Maintenant, la question se pose effectivement, comme vous le disiez, les campagnes coûtent extrêmement cher ici. Et on voit que justement, encore une fois, dans son sillage, il a créé un mouvement là-dessus. Et plusieurs de la dizaine de candidats démocrates ont annoncé qu'ils ne prendraient pas aussi des sous des grandes entreprises, etc. Et donc, on peut se demander au bout d'un moment où ils vont trouver les fonds, si les 10 affirment vouloir compter que sur des petites donations, etc. Voilà, ça pose question quand même au bout d'un moment, puisque les campagnes ici coûtent très cher, surtout en face de Donald Trump, qui est en train déjà d'amasser un bon trésor de guerre en plus de sa fortune personnelle, puisque lui, il dit à peu près depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2017 qu'il est candidat en 2020. Donc, ça sera intéressant. C'est une question qu'on va suivre de près, en tout cas, parce que justement, il y a des interrogations là-dessus.
Et si vous voulez justement suivre au plus près la politique américaine, mais en français, je ne peux que vous conseiller d'aller jeter une oreille au podcast de nos confrères de l'AFP à Washington, ça s'appelle Fragments d'Amérique. On vous mettra tous les liens qu'il faut dans le petit descriptif de cet épisode. Merci à Laurie Kenton et Elodie Cuisin pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Jusqu'à lundi prochain, je passe la main de cet auguste navire à ma camarade Mélanie Wanga. C'est elle que vous retrouverez dès demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're super natural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.